Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Majeure Prépa en partenariat avec ICN Business School. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Melnik. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Alexandre, vous êtes donc professeur de géopolitique à ICN Business School précisément, auteur, conférencier, ancien diplomate russe et soviétique. Et ensemble, nous allons tenter, si c'est possible de le faire bien sûr, de rentrer dans la tête de Vladimir Poutine et de comprendre les causes profondes qui ont poussé donc le dirigeant russe à envahir l'Ukraine et à déclencher cette guerre qui monopolise aujourd'hui l'actualité géopolitique mondiale. Alexandre, c'est à vous.
En fait, la Russie, c'est un pays qui représente une galaxie de clichés et de fantasmes que les Français ne connaissent pas. Pourtant, ce pays est assez proche géographiquement, mais comme s'il y avait un fossé mental qui sépare la Russie et l'Europe de façon générale, alors que la Russie porte en elle une part d'Europe. Ça, il ne faut jamais oublier. Alors, c'est pour ça que je voudrais revenir aux fondamentaux, à quelques matrices qui expliquent quelques raisons profondes, qui expliquent ce conflit et ce cataclysme qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Moi, je pourrais distinguer trois raisons principales qui expliquent ce conflit, ce cataclysme et le comportement de Vladimir Poutine qui porte, je répète une fois de plus, l'entière responsabilité de cette tragédie qui bouscule toutes nos certitudes aujourd'hui et finalement qui dépasse l'entendement. Alors, la première raison nous ramène à la civilisation russe. La civilisation russe, qui est une civilisation relativement récente, qui naît à partir de l'héritage de Byzance au Xe siècle, eh bien, c'est une civilisation qui a généré le plus grand pays du monde, qui est la Russie, par la taille. Donc, c'est à peu près 11-12 fuseaux horaires. Le soleil qui se lève à l'est est le même soleil parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il se couche déjà à l'ouest. Vous pouvez imaginer à quel point ce pays est colossal. Mais le paradoxe de ce pays, c'est que ce pays, le plus grand pays du monde, je répète, se sent toujours une forteresse assiégée. Comme si le monde autour de ce pays était composé des ennemis qui voulaient nuit et jour détruire ce pays. Donc, peut-être vous avez lu le roman de Dino Buzzati, le Fort Bastiani, justement, qui vivait dans cette angoisse d'une attaque qui ne venait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'attaque contre la Russie, mais ça ne veut pas dire non plus que tous les pays autour ne veulent que détruire la Russie. Et pourtant, ça travaille la psyché russe au plus profond d'elle-même. Depuis très très longtemps. Donc c'est une sorte de névrose obsidionale, ce qu'on appelle en psychanalyse une névrose obsidionale qui travaille ce pays-là. Donc c'est un pays qui se sent assiégé par les ennemis. Si vous ajoutez à cela la théorie de la troisième Rome, d'après laquelle la Russie, après la chute de la première Rome, après la chute de Byzance, la deuxième Rome, est censée prendre le leadership de la civilisation chrétienne, eh bien, si vous ajoutez à cela aussi un autre phénomène civilisationnel, je précise ce mot civilisationnel, c'est-à-dire le nihilisme juridique, c'est-à-dire le rejet total de la loi en tant que telle, parce que la Russie n'avait jamais connu Rome. Donc, vous comprenez qu'il y a une raison civilisationnelle qui pousse aujourd'hui Poutine à aller jusqu'au bout. Deuxième raison, elle nous ramène aux années 1990. Je rappelle que ce sont les années qui ont suivi l'effondrement du communisme. Le communisme qui existait au XXe siècle, en l'occurrence sous la forme de l'empire russo-soviétique qui s'appelait l'Union soviétique, le communisme s'est effondré avec la chute du mur de Berlin et avec la dissolution de l'Union soviétique, qui était basée, je répète, sur le communisme. Mais personne ne sait aujourd'hui ce que c'est le communisme. Si vous posez la question, c'est quoi le communisme? Vous pouvez entendre, c'était une belle utopie au pouvoir qui n'a pas fonctionné très bien, etc. Ou bien il s'agit d'un crime contre l'humanité. Parce que le communisme, finalement, avait emporté plus de nombre de victimes innocentes que le nazisme et le fascisme, qui ont été, eux, jugés par l'histoire, c'est-à-dire le tribunal de Nuremberg, alors que le communisme n'a jamais été jugé. Donc, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est le communisme. Donc lorsque le communisme s'est effondré en Union soviétique, que Poutine, il y a deux visions. Il y a deux visions de cette chute du communisme. Il y a la vision qui dit que ben, c'est formidable, délivrance, c'est libération, enfin ce système terminé, enfin l'individu, les individus peuvent être libres, piloter leur vie, construire l'économie de marché, aller vers la démocratie, vers le bonheur, etc. Ça, c'est une vision qui est dominée, par exemple, en Occident. Mais comme on ne comprend pas la Russie, eh bien, ben, on n'a pas, on a pas compris la vision de Poutine qui a tout de suite qualifié la chute de l'Union soviétique, donc du communisme, de plus grand désastre du XXe siècle. Donc, exit l'Holocauste, exit la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le plus grand désastre pour lui, c'est la chute du communisme. Et à partir de ce moment-là, si vous considérez le communisme comme le plus grand désastre du XXIe siècle, et après, vous considérez ces années qui ont suivi, les années 1990, comme les années d'humiliation. C'est-à-dire, il y avait une sorte de ressenti. Je ne rentre pas dans le détail, est-ce que c'était un vrai phénomène ou c'était le faux ressenti, mais ressenti de ce sentiment d'humiliation du grand peuple russe qui avait perdu, avec la chute de l'Empire soviético-russe, à peu près les deux tiers de son territoire, sans aucune raison valable. Les gens ne comprenaient pas pourquoi avant ils étaient respectés. Et là, dans les années 90, on les traite, comme on dit, par-dessous la jambe, donc comme une quantité négligeable. Et le peuple russe, qui est un grand peuple, qui se sentait humilié dans sa dignité, dans sa fierté, dans son orgueil, et ben voilà, ben, Poutine se positionne comme réparateur de l'humiliation. Et quand on est donc dans cette posture, évidemment, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire prendre la revanche par rapport à ça. Et la revanche, c'est la soif de revanche, c'est la mère de toutes les violences, de toutes les violences qui débouchent justement sur ce massacre de la population civile, sur cette tragédie qui se déroule actuellement. Donc c'est la revanche par rapport au passé. Donc restaurer cette grandeur de la Russie, pas l'Union soviétique, mais grandeur de la Russie dite éternelle, l'Empire russe éternel, donc, mais sans le communisme, parce que le communisme aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc c'est la deuxième raison qui nous ramène justement aux années post-soviétiques. Et là, la troisième raison est sans doute, à mon avis, l'essentiel si on se met vraiment dans la tête de Poutine, si on essaie de comprendre le personnage. Eh bien, à mon avis, c'est pas par rapport à l'OTAN que Poutine veut protéger sa population. C'est pas par rapport aux pays européens qui ont déjà construit leur vie et qui sont partis ailleurs pour tracer leur voie. Non, il veut protéger, entre guillemets, protéger son propre pays, son propre peuple par rapport à la liberté. Par rapport à la liberté du choix, c'est-à-dire choisir sa vie, choisir sa voie dans la vie. C'est ce que les Ukrainiens, eux, ont essayé de faire. C'est ce qu'ils essaient de faire, c'est ce qu'ils vont continuer à faire, c'est-à-dire être libres. Pourquoi la liberté, c'est une sorte de... il veut protéger ses compatriotes de la liberté. Tout simplement parce que la liberté, c'est pire que le Covid pour les régimes comme celui de Poutine, c'est-à-dire le régime autoritaire, le régime despotique, le régime qui écrase toute opposition. Et si la liberté, et c'est l'Ukraine qui incarne la liberté, c'est les pays qui, après la chute du communisme, qui ont choisi cette voie libre, eh bien, ça constitue le pire ennemi de Poutine. En d'autres termes, en essayant d'envahir l'Ukraine, excusez-moi pour l'expression, Poutine cherche à sauver sa peau.
Et bien voilà qui est très clair. Merci beaucoup Alexandre Melnik pour votre éclairage. Je le rappelle, donc professeur ISN Business School, auteur conférencier, ancien diplomate russe et soviétique. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et donc à très bientôt pour un nouvel épisode sur Majeur Prépa.